Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce Café des Sports de reprise au cœur de l'été, bien sûr. Reprise à Radio Foot, reprise des championnats, les choses sérieuses recommencent et nous avons donc repris nos stylos, nos micros pour vous informer, vous distraire autour du ballon, des pelouses, des clubs et des compétitions qui vont rythmer la saison avec, eh bien, au-dessus de l'hexagone quand même cette petite étoile qui est venue en faire briller une autre. Alors, dans ce Café des Sports de rentrée, ils sont là avec leur cartable. Ils sont venus, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie.
Tiens, Rémi Ngono est là.
Ah oui, mais j'ai vu comment tu me fuyais au niveau du couloir.
Ah bon, les auditeurs vont voir.
Ils cachent leurs armes, j'ai l'impression. Il y a Bruno Salomon pour arbitrer ce duo de bleu. Choc. Hein. On aura besoin de vous, Bruno. Bonjour. Et puis évidemment, lui, on le respecte. Notre arbitre, Alejandro Valente. Bonjour, Jefe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a un message d'un auditeur qui a attiré notre attention sur la page Facebook. Écoutez bien, c'est Prince, alors pas Prince Onyangé, mais Prince Menga de Pointe-Noire, congolais, qui nous dit « C'est le grand jour, le retour du classico Rémi contre Xavier, arbitré par Madame Annie, l'expérimentée pour ce match, au stade RFI à 15h TU. Le match se jouera à guichet fermé, les 7 milliards de tickets ont été vendus. Bon retour à l'émission. » Pas mal, hein, c'est un vrai auditeur de RFI. Parce que 7 milliards, c'est évidemment le clin d'œil à 7 milliards de voisins. Le retour, c'est donc le retour sur terre ou sur des pelouses pour nos champions du monde. Une fois leur deuxième étoile accrochée à leur maillot, une fois passées les vacances, ils ont repris l'entraînement. Mais on a encore des étoiles dans les yeux et nous allons y revenir dans quelques instants. Il y a le retour donc aussi de la Ligue 1, ou pardon, la Ligue des Talents, c'est ça Bruno? On aura le temps d'en parler. Cette Ligue des Talents avec 8 des Bleus champions du monde sur les pelouses de l'Hexagone, un championnat où les effectifs sont restés relativement stables pour l'instant et où la tonalité risque d'être encore tous derrière le PSG, qui, comme dauphin des septuples champions de France et à qui surtout les strapontins du podium, nous essaierons de l'imaginer. Retour des championnats, pas seulement en France, aussi en Angleterre, au Portugal et en Turquie. Et puis le retour sur le banc de Clarence Seedorf, le très grand joueur des Pays-Bas, de l'Ajax et du Milan AC, encore assez peu expérimenté comme entraîneur, entraînera les Lions indomptables. C'est ça Rémi, pour ces 4 prochaines années avec Patrick Kluivert pour adjoint, drôle de tandem, drôle de choix. Et là, vous nous aiderez à comprendre Rémi. Voilà, Radio Foot, c'est parti. Tout le monde est là aussi, Richard Rifono, Pierre Guérin. Et on va se remettre dans l'ambiance eh bien, de Moscou un certain soir du 15 juillet dernier.
On est champion du monde, on a attendu ça quand même, ça fait 20 ans.
J'étais un petit peu jeune et là, sur le terrain, sur le stade, c'est inimaginable, j'ai réalisé mon rêve. Et la France est championne et félicitations à tous les Français, le peuple français.
Ça fait plaisir, on est heureux. Il n'y a pas de choix, on est heureux. J'ai fait toute la Coupe du Monde, j'ai vécu avec eux. J'ai vu tous les matchs de la France, donc ouais, je suis content, je suis heureux.
On prépare l'avion. On prend pas l'avion.
Pourquoi Pierre on prend pas l'avion?
Parce qu'on est champion du monde.
Champion du monde.
Allez. Je pense qu'on va finalement prendre notre avion. Et on a fait l'aller-retour. Ce matin de Paris, on rentre dans la nuit. Mais on va profiter quand même.
J'étais sûr qu'on allait gagner. J'ai mis beaucoup d'argent sur la victoire de la France. Merci la Française des Jeux. À cette cote-là, c'est un cadeau. Et ça m'a payé plus que mon voyage.
Quand on s'est retrouvés cet après-midi, moi j'avais les larmes aux yeux parce que on était il y a 20 ans ensemble. Ça, on le sait, on était ensemble. Quoi. Et voilà. Et la seule que j'ai pas faite de finale, c'est 2006 et on l'a pas gagnée. Donc dans 20 ans, on revient.
Je l'ai appelé pour assurer le coup.
Champion du monde ! Énorme ! Trop bon, 3 buts d'écart, on avait prédit, mais 2, c'est déjà pas mal. C'est magnifique, champion du monde, on n'a plus qu'à mettre la deuxième étoile sur le maillot et c'est tout bon. Et on rachètera un maillot et on viendra pour la troisième finale à gagner. On est trempé, mais je pense que François Hollande a dû venir là sur la fin, du coup, ça a mis une inverse quoi. Allez, bisous, vive la France, vive la République.
Allez, levez les mains. C'est vrai que nous y étions donc dans ce stade Loujniki de Moscou. Mais où étiez-vous? Alors évidemment, chers auditeurs, on imagine vous étiez en famille ou avec des amis au café du coin pour encourager les Bleus ou les Croates, hein, parce qu'on avait le droit aussi d'encourager les Croates. Et il y en avait beaucoup, je crois, qui les encourageaient aussi. Et vous, où étiez-vous, Bruno?
Eh bien, écoutez, j'étais à Villard-de-Lans, voilà, petite commune au-dessus de Grenoble.
Vous aviez la chance de pas être au travail, parce que quand on est au travail, c'est parfois moins drôle.
J'ai fait ça avec mon fils, et c'est pour ça que quand j'ai entendu Magic Indy hier, je vois encore mon fils de 5 ans et demi sur une place de village avec 1000 personnes. En fait, d'entendre les gens, j'en avais des frissons. Je me suis revu il y a un mois tout juste en train de faire la fête avec des inconnus, et voilà, c'était pas les Champs-Élysées, mais c'était un merveilleux moment parce que ça voulait dire que toute la France aussi était à fond. Et puis voilà, puis ce match de foot très tranquillement, alors vraiment d'une tranquillité dans mon petit canapé, j'ai pas eu besoin d'aller dans un bar, quoi que ce soit, j'étais tranquille, on était bien avec le fiston, on s'est vu ça, et j'ai peut-être vu l'un des matchs les plus bizarres de ma vie, c'est-à-dire que tu mènes 2-1, tu te dis tiens, c'est marrant,
c'est très étrange,
voilà. Non, c'était vraiment très bizarre, mais voilà, là franchement d'avoir entendu ces gens, c'est ça. Mais je suis reparti là.
Je sens, mais en ce moment, je crois qu'il y a pas beaucoup besoin d'en rajouter pour qu'on se rebranche tous. Rémi, où vous étiez-vous?
Moi, j'étais
sur votre canapé.
Non. Moi, j'étais le consultant particulier de Didier Deschamps, qui m'avait chargé de trouver un marabout pour que chaque équipe qui pourrait venir, que nous cherchions des malédictions pour jeter sur eux. Donc, nous avons réussi à atteindre des gens comme Cavani.
Ouais, on a vu.
Très difficile pour ce côté-là. Donc, bien sûr aussi, on savait que c'était très compliqué qu'on rencontre le Brésil. Donc, on a tout fait pour qu'on rencontre quand même
la Belgique.
On savait que, comme c'est nos voisins et qu'ils ont beaucoup peur, et qu'ils allaient laisser qu'on passe calmement, de toutes les façons. Et on savait
c'était
ça.
Calme, donc.
Grâce à ce marabout-là, malheureusement, depuis la victoire, Didier Deschamps est porté disparu.
Il est en vacances, je crois, lui aussi. Il a le droit, non?
Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas réglé toute la note.
Bon, alors on verra ça. Votre marabout. Et vous, Xavier, alors, on vous a vu mondialement, en mondiovision ou écoutez.
J'étais dans cette grande maison, dans ce bâtiment, un peu à RFI et aussi à France 24. Voilà, donc,
on vous voyait
on a passé
de Moscou.
Très soirée très émouvante avec beaucoup de passionnés.
Et vous, Alejandro?
Ici aussi.
Ah, ici,
évidemment,
oui. On a
en train
bosse.
De suivre le travail de nos envoyés spéciaux et d'organiser la soirée spéciale et tous ceux qui devaient suivre. Et voilà, c'était quand même magnifique.
Alors c'est vrai que ces Bleus, on les a pas tout à fait vus venir avant la compétition, même s'ils figuraient parmi les équipes favorites. Hein,
même
on
les mettait. Après trois matchs, Annie, pour ceux qui les voyaient venir.
Voilà,
après
exactement.
Trois matchs,
surtout le troisième.
Fallait de bon. Hein, ah oui.
Après le match du Danemark, on se demandait un peu. Après, il y a eu un incroyable France-Argentine. On va pas trop en parler, Alejandro. Un incroyable France-Argentine. Premier match éliminatoire. Et là, on a commencé quand même à les regarder différemment, ces futurs champions du monde, en se disant que finalement, eh bien, il pourrait nous surprendre. Alors surtout, peut-être qu'aujourd'hui, on y reviendra aussi la semaine prochaine, parce qu'on a un peu de temps, mais peut-être parler de Didier Deschamps, parce que quand même, c'est le champion capitaine des Bleus en 1998 et qui a donc si bien poursuivi une carrière d'entraîneur avec maintenant une étoile de sélectionneur. Avec cette chose en plus qu'on connaît à Didier Deschamps, il n'aime pas qu'on parle de sa chance légendaire, mais quand même, il y a un don, une croyance, une certitude aussi. Écoutez-le, le sélectionneur, il parlait à nos confrères du Parisien et notamment à Dominique Sévrac.
Le 15 juillet 2018, vous saviez le matin même que vous aviez gagné contre la Croatie.
C'est prétentieux de dire ça. Je le savais un peu avant.
Ouais. À quoi?
C'est comme ça, c'est écrit, c'est le destin.
Ah bon? Vous auriez dû mourir d'exprès?
Oui, non, mais après, je vais dire ça, après, il faut le faire, bien évidemment, mais...
Ça fait deux fois qu'il y a des bonnes prémonitions, alors.
Prémonitions, je crois qu'il y a une chose, c'est le destin. Le destin, il est écrit. Proche, pas mystique, non. Non, non.
Énorme! Allez, bisous, vive la France!
il est pas mystique. Marabout, vous nous en parliez tout à l'heure, Rémi. Mais Alejandro, alors peut-être qu'on
Je pensais que vous alliez repasser, Annie, une bande Rémi Ngono démontant Didier Deschamps, critiquant Didier Deschamps, en disant tout le mal qu'il pensait de ce piètre technicien. Et là, vous l'encensez, vous demandez à Rémi Ngono, qui était son pourfendeur, de lui donner raison. Non, mais attendez, il faut que les auditeurs réécoutent les bandes de ce que disait Rémi Ngono avant la Coupe du Monde.
Rémi vient de se redresser, je vous dis tout de suite.
Hein. Non, mais il disait que c'était un moins que rien, que cette équipe de France n'avait aucune chance de gagner. Et moi, au regard de la modeste expérience que j'ai, je rappelais simplement qu'en 98, Didier Deschamps était le capitaine de cette équipe de France à laquelle on donnait peu de chance. Et qu'il avait su retenir cette expérience, et donc il a su où il allait et mener cette équipe de France au bout.
Mais est-ce que ce côté destin vous surprend quand il dit
non,
ça?
Non, moi non, parce que en fait, et j'avais essayé de défendre devant les aphorismes et les effets de manche de Rémi Ngono sur ce plateau les mérites de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il a l'expérience qui parle pour lui. Il a le discours, il sait comment parler aux autres joueurs, et surtout il a ce respect qui s'impose parce qu'il est champion du monde comme joueur sur le terrain. Et ça, les plus jeunes, même s'ils gagnent aujourd'hui plus d'argent,
d'Europe, hein, n'oublions pas,
et vainqueurs aussi de l'Euro, les plus jeunes, s'ils sont plus flamboyants dans leur façon de jouer, s'ils sont plus flambeurs dans leur façon d'être, les Pogba, les Mbappé, les Griezmann, ils respectent ça. Deschamps, respect, il a gagné la Coupe du Monde et il a gagné l'Euro avec les Bleus. Il y a 20 ans, eux, c'était des gamins pour la plupart. Certains étaient même pas nés. Mbappé était pas né à ce moment-là. Mais ils savent que Deschamps a gagné la Coupe du Monde. Ils savent que c'était le capitaine qui a mené les Bleus à la Coupe du Monde. Donc, ils lui ont fait confiance.
Donc, c'est pas la chance.
Non, c'est pas de la chance. La chance, ça se met de son côté. Et Deschamps, pour ça, il sait faire.
Okay. Rémi.
Maintenant,
la défense.
Première des choses, je suis quand même surpris qu'aujourd'hui, Xavier Barré, qui a passé le temps à me dire que Zinedine Zidane gagne par chance, dise que Didier Deschamps n'a pas de chance. Zinedine Zidane, c'était 3 Ligues des Champions et c'était la chance.
On la provoque, la chance.
Deuxième des choses. Monsieur Xavier Barré a passé le temps ici à critiquer Mourinho, qu'il bétonnait et qu'il avait la possession de 40%.
Il s'est beaucoup
match.
Trompé dans ses prédictions sur la Coupe du Monde, lui. Or, il aurait dû consulter votre marabout.
Or, justement, Didier Deschamps gagne une Coupe du Monde avec 35% de possession. Vous qui êtes le maître du Barça, vous qui êtes l'adorateur de Wenger, quand je vous disais que le football d'aujourd'hui, ce n'est plus la possession, vous êtes monté sur vos chevaux pour me vanter le tiki-taka. Aujourd'hui, vous devenez le plus grand défenseur de Didier Deschamps, c'est-à-dire de Mourinho. Parce qu'en fait, en tout et pour tout, qu'est-ce que Didier Deschamps faisait? Il bétonnait, il mettait des gaillards et hop, on faisait la contre-attaque. C'était ça le football de Didier Deschamps. Maintenant, ne sois pas quand même malhonnête.
Juste pour terminer.
Tu es supporter du Barça, c'est-à-dire la possession. Tu es supporter d'Arsenal, la possession. Et moi, je suis pas avec ce football-là. Donc moi, ce que j'ai vu, par rapport à Didier Deschamps.
Vous n'aviez pas prédit la victoire de la France quand même.
Ah non, mais de surcroît, il est en train de se vanter là que Didier Deschamps remporté. Attends.
Parlez-moi de Didier Deschamps surtout.
Je finis d'abord une chose. Didier Deschamps a réussi à avoir aussi un côté chance parce que, première des choses, l'équipe contre laquelle il gagne la Coupe du Monde est 20e au classement FIFA. L'équipe contre laquelle il gagne la Coupe du Monde a parcouru, tenez-vous tranquille, 9000 kilomètres, rien que pour les éliminatoires. Et en arrivant là, encore cette équipe a eu un autre parcours avec d'autres matchs et c'est des joueurs qui jouaient déjà depuis 98 qui étaient fatigués. Donc, à une certaine période, au lieu de te vanter, Didier Deschamps a remporté une Coupe du Monde contre une équipe qui est 20e.
Oui, mais qui est arrivée en finale, peu importe. Voilà, mais
qui est arrivée à la Coupe du Monde par les barrages. Non. Les barrages.
C'est tout à son honneur, d'ailleurs. Ce qu'il y a sur le terrain avec la Croatie, c'est peut-être 20e. Ils sont peut-être un peu arrachés pour passer au barrage, mais quand même, c'était la Croatie. Et tout le monde voyait une bonne partie dès le départ des huitièmes de finale. Tout le monde aurait bien mis une petite pièce plus sur la Croatie que sur la France avant le match face à l'Argentine. On avait quand même vu une Croatie.
Mais c'est deux équipes qui sont distinguées d'ailleurs contre la Croatie,
contre l'Argentine. Ah oui, contre l'Argentine. Je voudrais pas faire mal au Réfé, mais tout le monde s'est un peu essuyé sur l'Argentine sur cette Coupe du Monde. Pardon, Réfé.
Didier Deschamps, l'artisan.
Moi, il y a une chose que je lui impute et où je, moi je l'ai dézingué, mais je suis le premier à le dire.
Ah bah toi tu es plus honnête que Rémi Godot.
Non mais c'est, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ces équipes de Boy Scouts,
vous êtes pas du Gary,
où on enlève la saveur de certains joueurs à fort caractère, je pense à Karim Benzema, il y a d'autres joueurs comme ça, qui se sont fait écarter parce que lui connaît l'aventure, parce que lui il sait qu'il faut tenir 49 jours, vivre ensemble pendant 49 jours, et il a réussi à faire une alchimie sur 23 joueurs avec des garçons qui ont très peu joué, mais qui étaient là quand même pour mettre l'ambiance. Moi quand je vois la photo sous cette pluie battante avec les gars en train de hurler, les plus heureux, c'est les garçons comme Mendy, comme Areola, comme Presnel Kimpembe, qui ont été les garçons qui ont finalement fait le nombre et qui ont, mais qui ont apporté de l'énergie aux autres. Et ça, vraiment, je, bravo à Didier Deschamps parce que c'est sa force. Ludovic Julie disait, à Monaco, c'était pareil. Il était vraiment sur ce côté, on fait un marathon, on pense vraiment à tout ce qu'on doit avancer. Et s'il faut mettre des joueurs de côté parce que, eh ben, ils ont pas le bon état d'esprit, c'est pas grave, je m'en séparer parce que je sais que les bonnes pommes vont m'amener au bon endroit. Moi, je trouve ça plutôt pas mal de sa part. C'est là-dessus où vraiment, respect ad vitam aeternam.
Alejandro?
Ben, moi, je faisais pas partie des pourfendeurs de Deschamps, plutôt de ceux qui, depuis le début, soutenaient son action parce que c'est quelqu'un que je trouve assez admirable. Et ce que j'ai apprécié surtout dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il n'est pas allé là-bas en se disant, voilà, je vais bétonner, je vais jouer comme ça. Il est allé avec d'autres idées. D'ailleurs, le match contre l'Australie l'a montré. Il a essayé de jouer autrement et il s'est rendu à l'évidence que vu l'état des formes de ses joueurs, vu la situation en général, il fallait établir un groupe qui évolue autrement. Il l'a fait, c'était pas gagné d'avance, loin de là. On l'a vu contre le Pérou, ça a été laborieusement mis en place. Ça, bon, le match contre le Danemark était un match un peu à part, mais même contre l'Argentine, c'est le seul match où ils ont été menés au score. Cette équipe a montré du caractère pour revenir dans une situation qui s'était compliquée. Et voilà. Et après, ça a été beaucoup plus simple.
Mais sur le match de l'Argentine, là où c'est intéressant, c'est que effectivement, lui a façonné ce groupe. Et c'est à un moment donné le groupe qui se prend en main aussi. C'est sur le terrain où, à un moment ou un autre, ils se disent bon, c'est où on passe à la trappe, où on y va. Et ce groupe naît là aussi.
Absolument.
De faire voir quel cas son caractère. Donc en fait, c'est deux choses. Mais Didier Deschamps sur ce qu'il a.
Mais ne disons pas l'Argentine n'était pas. L'Argentine, c'était une bande de touristes autour d'un monsieur qu'on appelait Messi. Bon, attendez,
vous n'allez pas sur tout son menée, Rémi.
Voilà les gars qui sont.
La France, l'équipe de France est menée.
Ils sont passés là devant.
L'équipe de France est menée.
Oui, mais à un moment, c'est 2-1 en faveur de l'Argentine, Rémi.
Ils sont passés d'ailleurs devant le Nigeria grâce à l'arbitre. Ça, tout le monde le sait. Ils sont arrivés à la Coupe du Monde où vous-même, vous le savez, ils étaient la dernière attaque de toute l'Amérique du Sud. Ils n'ont rien produit à la Coupe du Monde.
L'équipe d'Argentine menée 2-1 face à la France.
Nous voulons quand même dire, quand on dit la force de caractère avec l'équipe d'Argentine, c'est pas la force de caractère. L'équipe d'Argentine était faible de caractère, tout le monde le sait.
Mais l'équipe de France,
j'ai vu, par contre, là où on ne met pas aussi en évidence, parce que bien évidemment, Didier Deschamps n'a pas aussi joué au terrain, là où moi j'ai vu des gars de caractère, et quand on me dit que non, il a enlevé des gens de caractère, j'ai vu Pogba. Bien Pogba sûr. A plus de caractère que Benzema.
Parce que quand les gens me disent. Évidemment, Rémi, on parle de l'affaire Benzema, elle traîne depuis des années. Donc,
Rémi, c'était le plus le côté d'avoir des garçons qui savent vivre ensemble. Après que Paul Pogba devienne le vrai patron de cette équipe de France et prenne les clés du camion, ça aussi, c'est à imputer. C'est pour Didier Deschamps. Didier
Deschamps. Mensonge là que les gens savent vivre ensemble parce que Benzema gagne des Ligues des Champions
en vivant avec des gens, pas en vivant à l'extérieur, de toute façon,
Deschamps, quand il était joueur, et Ginola lui-même l'a déclaré dans un documentaire à la télévision française avant la Coupe du Monde, Deschamps avait écarté certains joueurs, enfin en tout cas avait œuvré auprès de Jacquet pour constituer une équipe de France plus compacte en 1998, enfin dès 1996 d'ailleurs, en écartant effectivement Ginola et Cantona, qui était à l'époque le meilleur joueur d'Angleterre et l'Euro en Angleterre. Les Anglais disaient, mais comment est-ce que l'équipe de France peut se faire sans Cantona? Oui, l'équipe de France se construisait autour de Deschamps avec un Zidane jeune. Voilà. Et donc, aujourd'hui, sélectionneur, il sélectionne, il prend les joueurs, ouais, il s'est pris des tombereaux d'insultes, de critiques méchantes sur la figure tous ces derniers mois, de la part de Rémy Ngono dans cette émission, de la part d'autres ailleurs. Il a tenu bon, il a gardé le cap, il avait une idée et il est arrivé au bout. Donc chapeau Deschamps, n'en déplaise à Rémy Ngono.
Didier Deschamps a perdu ici l'Euro en France contre le Portugal.
Il est allé en finale. Là. Il
oui, contre le Portugal qui n'avait pas Cristiano Ronaldo. Donc, à une certaine période aujourd'hui.
D'abord sur Ronaldo, la pelouse et après sur le banc.
Cristiano Ronaldo était au banc. Attendez.
Il était là, donc, mais vous l'avez
il
vu.
Il a perdu. Donc, ne me dites pas que c'est quelqu'un qui vraiment connaît. Non. Il a gagné. Je le dis encore que il y a eu beaucoup de circonstances qui ont eu non,
on peut
à permettre
dire ça.
Que, voilà, attendez.
On peut pas dire que c'est un coup de bol.
On vous mettra pas d'accord.
On peut pas dire que c'est un coup de bol. Il récupère l'équipe de France qui était pas flamboyante en 2012. Il l'amène en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, ce qui est déjà une bonne prestation. Il l'amène en finale de l'Euro 2016, ce qui est une très bonne prestation. Et il l'a fait gagner la Coupe du Monde 2018. Quelle équipe nationale a fait mieux ces dernières années sur trois compétitions que l'équipe de France? L'Espagne. L'Espagne 2008, 2010, 2012. C'est tout.
Peut-être tu ne connais pas. Peut-être tu ne connais pas que l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde 2014. Tu n'es pas au courant.
Oui, mais
donc, attendez,
là,
qu'est-ce que tu
en
dis au premier
tour? On parle de finale, Rémi. Donc,
l'équipe de France fait un parcours remarquable sous la Coupe de Deschamps. Et pas seulement sur cette Coupe du Monde, c'est vraiment un projet qui s'est construit sur le long terme, avec des choix. Je suis d'accord avec une chose sur Rémy Ngono, c'est le jeu pas flamboyant. Alors je le dis franchement, oui. C'est vrai que si l'équipe de France jouait de façon plus spectaculaire, je serais très content. Mais à l'arrivée, ce qu'a mis en place Deschamps, ça paye, ça marche, c'est cohérent.
En tout cas, ils sont 23,
Zidane a mis sur place, ça a payé. Ce que Mourinho fait, c'est bon. Donc acceptons Mourinho,
avec un club, pas une équipe nationale, avec un club.
En tout cas, ils sont 8 des 23 bleus à disputer le championnat de France et la Ligue donc professionnelle de football professionnel, la LFP en France, leur rendra hommage à tous au cours du week-end. Ceux qui seront dans les stades au cours du week-end donc auront la chance eh bien, de voir le beau trophée doré, la Coupe du Monde. Pas vraiment la vraie, hein, Alejandro. Hein, c'est,
non, la vraie est rentrée à Zurich.
elle est restée quelques heures sur le terrain. C'est la réplique de la Fédération Française de Football. Elle sera ce soir à Marseille pour rendre hommage à Mandanda, Thauvin et Rami. Elle sera demain à Lyon pour Fekir, ensuite à Paris pour Mbappé, Areola Kimpembe et enfin à Monaco pour Sidi B. Mais ça sera le week-end prochain. Alors heureusement, la Ligue 1 qui s'est auto-désignée la Ligue des Talents. Qu'est-ce que vous pensez? On en a plein les journaux hein, avec des petits textes du genre nos centres de formation. Ça c'est encore la phrase la plus intéressante. Nos centres de formation créent des étincelles qui deviennent des étoiles ou qui deviendront des étoiles d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est prétentieux cette Ligue 1 qui s'autoproclame Ligue des Talents?
Je reprendrai c'est Gilles Grimondi qui est scout maintenant du côté d'Arsenal qui disait que par exemple l'Île-de-France est le plus grand bassin de footballeurs d'Europe. Je ne sais pas si la Ligue 1 est une ligue de talent. Le foot français est un foot de talent. Si on devait en faire un plus global, moi je trouvais que c'est un peu réducteur parce que cette Ligue 1, soyons sérieux, on n'a quand même pas non plus les meilleurs joueurs d'Europe. Ça se serait et la France aurait peut-être gagné.
Mais
plus
peut-être
de
que le niveau s'améliore.
Le niveau s'améliore. Moi, je crois pas. Je crois surtout qu'il faut qu'il y ait plus d'investisseurs. Il faut qu'il y ait plus d'argent. C'est
ça
pour
arrive,
l'instant.
Hein.
Oui, mais j'espère surtout que la France va surfer sur cette Coupe du Monde et sur voilà. J'entendais un sujet ce matin sur ma radio sur France Bleu du petit club de Roissy, l'ami Pogba qui est en train de péter tous les scores de quoi?
Lannion.
Ouais, c'est ça, Lannion. Et en fait, en gros. Le club est en train de péter tous les records en termes de licence. Donc, une nouvelle fois, on va avoir des jeunes qui vont arriver. Et une nouvelle fois, il y a des
les abonnements aussi, Bruno, marche très bien. Marseille a augmenté de 15% grâce à sa
bien
saison.
Sûr, mais après,
aussi,
derrière, il va falloir quand même que cette Ligue 1, c'est bien gentil de nous dire qu'il y a des talents.
Il y a du talent. Effectivement. Il y a du talent. Je ne peux pas nier ça aujourd'hui. Parce que quand vous voyez, moi, le talent que moi j'ai vu pendant la Coupe du Monde, c'était Mbappé. Mbappé est resté bel et bien dans le championnat de France. J'ai, par exemple, vu certaines entrées
formées
de Fekir.
En France
de Fekir. ça fait quand même la formation lyonnaise.
21 donc, des 23 bleus ont été formés dans les centres de formation de France.
Franchement, donc moi je crois que lorsqu'on essaie de regarder aujourd'hui la Ligue 1, contrairement à d'autres, et d'ailleurs vous pouvez le voir par les droits télé qui ont subitement augmenté avant même la Coupe du Monde.
Mais ça c'est aussi c'est-à-dire beaucoup, que, vous voilà, savez, donc, les histoires de
moi je me dis, lorsque vous voyez quand même le potentiel de gens, de jeunes qui sont en France et qu'on vient souvent puiser pour aller rapidement ailleurs, j'ai dit aujourd'hui, on ne l'épuise pas parce que, heureusement, cette fois-ci, on n'a pas beaucoup puisé en Ligue 1. C'est une Ligue qui va attirer.
Alejandro ?
Ouais, ben les talents sont là, mais là, la formule, c'est de la com. Hein. C'est, oui, ne nous trompons pas, l'Espagne avait sorti la formule de la Ligue des Étoiles. Voilà. On essaye de limiter parce qu'on essaye de vendre cette Ligue 1 à l'étranger.
On a d'abord vendu les droits et après on essaye de vendre l'image.
On l'a vu en Chine où Bruno était présent.
On parlait de Mbappé sur la Chine, juste pour la petite anecdote, pour être allé à Shenzhen avec Christophe Dungean qui est du service des sports de RFI.
Pour couvrir le trophée des champions.
Voilà, il n'y a pas que Neymar. Voilà. Sachez que Mbappé, pour avoir discuté avec quelques jeunes chinois qui parlaient français ou en anglais, ce qui était assez drôle, c'était Mbappé vitesse Argentine. Je pense qu'il a marqué, il est rentré, voilà, dans le cœur des amoureux du foot mondial grâce à ses accélérations. Mais cette Ligue 1, elle a moyen de grandir. Le problème, c'est on va parler d'infrastructure, on va parler de pouvoir accueillir le public. Je pense à des stades comme Amiens qui sont pas du tout prêts, etc. Je pourrais encore en citer quelques-uns. Les départs aussi des jeunes qui partent trop vite à l'étranger. Quand on regarde maintenant, ils sont tous attirés de se barrer en Angleterre,
non,
en Espagne.
Bon.
Tu barres, vous êtes agent. Voilà. Mais en tout cas, de vouloir partir. Après, ce qu'il va falloir, et ce que je dirais, Jérémy, est tout à fait juste, il y en a un qui est resté. Et c'est la vraie, c'est ça le vrai bon signe, c'est que Mbappé, dans son cheminement professionnel, au lieu de partir au Real Madrid, au lieu de partir à Barcelone, il a décidé de faire un step et de s'arrêter à Paris et de continuer sa carrière.
Ça, il l'avait déjà expliqué la saison dernière.
Ouais, mais c'est important. Bon. Mais seulement ça pouvait rentrer aussi dans la tête de certains jeunes, de se dire qu'on peut évoluer en France et qu'on peut grandir en France.
Oui, ça, c'est vrai que je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui pour le championnat de France, parce que les droits télé, bon, Raymond Gonod faisait allusion. Le nouveau contrat, c'est seulement à partir de 2020. Il y a encore 2 ans à tenir avec l'ancien contrat qui est moins avantageux. Par contre,
on peut s'endetter.
Vendre, enrichir ces droits télé avec une meilleure valorisation à l'étranger, c'est clairement l'objectif de la Ligue professionnelle. Et Didier Quillot l'a encore rappelé ce matin. Donc il y a la volonté vraiment pour la Ligue de mieux exposer, mais pour ça, il faut des locomotives. Or, le problème du championnat de France aujourd'hui, c'est que vous avez le PSG et le PSG, allez, un peu Lyon, un peu Marseille, un peu Monaco, mais c'est quand même très court. Or, ce qui fait la force de la Première Ligue aujourd'hui, c'est que vous avez 6 clubs qui se battent pour le titre de champion, alors qu'en France, il y en a 1,5 quand, de temps en temps, Monaco arrive à se glisser au palmarès. Donc, il va falloir que ces clubs français deviennent plus consistants au niveau des effectifs et plus ambitieux.
Alors, justement, ça sera la tonalité de cette Ligue 1. Avec le coup d'envoi, donc, ce soir, ça sera au stade Vélodrome pour la rencontre Marseille-Toulouse. Match à guichet fermé. Hein.
62 000.
Voilà, ils risquent de battre encore des records cette année, les Marseillais. La saison s'engage alors que le mercato n'a pas été trop encore animé, on peut dire. On a noté deux arrivées, nous, celle de Golovin, le russe, quart de finale de cette Coupe du Monde du côté de Monaco.
Déjà blessé
d'ailleurs, mais qui ne joue pas encore. Ses patrons sont russes, alors ils sont compréhensifs, sûrement. Et puis, eh bien, il y a l'arrivée quand même, allez, ça va faire plaisir à Karine Galli, ça je le sais, du grand, du beau Gianluigi Buffon, un grand Gigi prêt à enfiler ses gants dès ce week-end contre Caen au Parc des Princes, et il s'est donné 1 mois pour parler bien français.
Je me sens très bien. Si j'ai choisi de continuer à jouer et accepter un tel défi, c'est parce que j'aime ça et je veux remporter ce défi. Pour cela, j'ai besoin de l'aide de tout le monde et je ne pourrais pas le faire tout seul. Je voulais continuer à jouer, mais je voulais continuer à le faire au plus haut niveau. En plus, j'ai toujours été désireux de relever un défi dans un pays étranger. Le PSG est un club ambitieux et important. Je pense qu'après toutes ces années en Italie, c'est bien de changer. Cela peut m'aider à m'améliorer en tant qu'homme et en tant que professionnel. J'entre dans un nouveau monde.
Ce recrutement, Bruno, c'est bien pour le PSG, c'est bien pour la Ligue 1 ou c'est bien pour Gigi Buffon qui a 40 ans
pratiquement? C'est bien pour Gigi Buffon qui prend un contrat à 8 millions d'euros par an. C'est plutôt pas mal quand on a quand
après
on a
27 40 ans en Italie.
Voilà, 27 ans en Italie. Après, derrière, pour l'image de la Ligue 1, c'est parfait. On parlait il faut pas que des talents, il faut aussi quelques têtes d'affiche, voilà, quelques étoiles. Et c'en est une, même si elle est déclinante, mais il est là et c'est le principal. Après, pour le Paris Saint-Germain, pour l'instant, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque je vous rappelle que, il y a Gigi, et puis il y a Gigi. Voilà, en termes de recrutement, pour l'instant, le Paris Saint-Germain vend beaucoup, se débarrasse.
Ils étaient obligés.
Effectivement, obligés. Ils ont envie de recruter, mais
ils ont
pour
dépensé, n'oublions pas l'année dernière, ces fameux 222 millions pour, Neymar et 180 pour Mbappé.
C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas recruter plus et qu'ils sont allés prendre Gigi Buffon.
Mais ont-ils besoin?
Buffon, ils n'avaient pas vraiment besoin que gardien.
Peut-être pas Buffon, mais ont-ils besoin de recruter finalement?
En tant qu'image, pour l'image, bien sûr, parce qu'il faut garder le haut de l'affiche et il faut faire venir des joueurs. Vous ne pouvez plus acheter à titre onéreux, donc il faut recruter gratuit. Donc Buffon, il est effectivement en fin de match, un peu en fin de carrière aussi. Donc là, il vient,
en fin de match.
Oui, vous avez raison. J'étais à sa présentation et c'est vrai que c'est un joueur qui a une aura formidable. Mais moi, je pense que ça peut être très intéressant pour le PSG d'un autre point de vue. Parce qu'aujourd'hui, dans le vestiaire, on a souvent fustigé les comportements de star de Neymar. Or, Neymar, là, dans le vestiaire, il y aura un type qui est plus expérimenté que lui, qui a gagné la Coupe du Monde.
Ça va le calmer.
Voilà. Et forcément, peut-être qu'il n'aura pas tout à fait le même discours.
Il y en a d'autres qui ont gagné la Coupe du Monde, qui vont se présenter face à lui.
Oui, mais enfin, ils étaient tous remplaçants. Oui.
Mbappé.
À part Mbappé, ils étaient tous remplaçants.
Oui, c'est ce que je dis. Mbappé,
oui, mais Mbappé, il a que 19 ans. Donc,
Il a que 19 ans, mais voilà, je pense qu'il a grandi plus pendant l'été.
Mais bien sûr qu'il a un énorme talent. Mais voilà. Donc, dans le vestiaire, au niveau du vécu, Neymar, il aura quelqu'un qui pourra lui tenir tête. Et je pense que ça va être très intéressant ce qui va se passer dans le vestiaire du PSG cette saison.
Mais pour vous poser la question de savoir s'il faut que le Paris Saint-Germain recrute, je pense qu'il leur manque encore quelqu'un au milieu de terrain. Mm-hmm. Puisqu'on rappelle que Thiago Motta est parti, il n'y a plus de sentinelle. Alors ils sont en train de penser, et Tourelle est en train de proposer un nouveau système de jeu, mais lui est plutôt un adepte d'avoir un, deux, trois systèmes de jeu, un peu à la différence de Emery ou de Laurent Blanc qui était resté dans le bon vieux 4-3-3. Alors Emery, c'est les joueurs qui l'ont ramené assez rapidement au 4-3-3. Mais voilà, et je pense il va y avoir besoin d'une sentinelle. Et si vous jouez sur sa nouvelle tactique avec trois défenseurs centraux, pour l'instant le PSG n'a que trois défenseurs centraux. Donc si vous en pétez un, vous n'êtes pas bien. Donc il va falloir recruter aussi un défenseur central.
Alejandro, ce PSG, ça sera encore tous derrière?
Je pense que
sans recruter,
ça c'est clair, parce que on dit bon, le PSG a à peu près a bien géré son effectif, il a réussi à défaut de recruter des grandes stars onéreuses, ça n'est pas à perdre celles qu'il avait, et c'est déjà un mérite. Mais les autres clubs ont beaucoup de mal. On disait les talents partent parce que il y a Manchester United ou Real Madrid, etc. Mais elles partent aussi pour Fulham, pour Bournemouth, pour des équipes beaucoup moins prestigieuses. On a perdu, par exemple, les deux derniers vainqueurs du prix Marvivien Fouet cet été, Toko Ekambi et Seri, qui sont partis en Espagne et en Angleterre, et pas pour aller dans des clubs extrêmement prestigieux. Donc, c'est compliqué quand même.
Rémi, cette Ligue 1.
Oui, je trouve que...
Ce PSG, surtout. Ah. Il est encore là pour remporter le titre tout seul, largement devant?
Puisqu'on a dit que PSG joue contre PSG. mais cependant, c'est la politique du PSG, surtout les ambitions de Buffon qui me désespère. Parce que c'est exactement... j'ai toujours dit, peut-être parce que je suis africain, c'est pour ça que ça m'exaspère beaucoup. Parce qu'en même temps, cette semaine, j'ai vécu une drôle d'aventure où j'ai vu un monsieur de 93 ans qui avait démissionné il y a 10 ans comme Premier ministre et qui se présente comme futur président à 93 ans. Donc, aujourd'hui, Didier Buffon, il démissionne de la Juve et il dit, Il revient maintenant découvrir
autre chose. Il ne démissionne pas, il était en fin de contrat.
Attendez, il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Lui-même, il a annoncé sa retraite internationale. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a presque tout gagné. Et subitement, Gigi Buffon revient. Finalement, moi, je me dis, c'est quelqu'un qui est friand de beaucoup d'argent. Il ne se rassasie pas, parce que qu'est-ce qu'il vient finalement chercher?
Jouer, dit-il.
Jouer. Mais non, à une certaine période, je dis, il faut savoir aussi céder la place et surtout prendre la sortie par la grande porte.
Mais
parce que
ça, effectivement, c'est pas de la faute de Gigi Buffon si on lui offre.
Ah, mais attendez, donc c'est à peu près comme si vous me dites que continuez à manger alors que je n'ai plus faim.
Alors,
moi, je vais vous dire que c'est quand même
Qui pourrait contester la place, enfin, ou être deuxième dauphin de ce Paris Saint-Germain pour vous?
Malheureusement, c'est un championnat où on ne voit pas véritablement le dauphin. Parce que.
Non, mais d'ailleurs, c'était tout le suspense de l'année dernière.
Parce que, en même temps, on peut quand même se dire que Marseille a conservé son effectif, bien que perdant Zambouanguissa au milieu de terrain, mais ils ont pris Careca derrière.
Le mercato n'est pas fermé encore.
Voilà, ils ont pris Careca derrière. Bon,
toujours pas d'attaquant.
On peut quand même se dire qu'ils vont certainement mûrir, même comme ils n'ont pas un attaquant. Et c'est ça qui est très grave, parce que Mitroglou, j'aime bien, mais ça ne peut pas donner grand-chose. Quand on sait que Mitroglou, bon, c'est pour le théâtre. Et maintenant, quand on essaie aussi de regarder de l'autre côté de Monaco...
Bon, non, mais alors, qui vous verriez plus?
Je crois que je pourrais plutôt voir Lyon.
Lyon. Et vous, Bruno?
Alors, Lyon.
À la chasse au PSG.
La chasse au PSG, Lyon, mais ça va pas être une chasse, ça va pas durer très longtemps, quoi. Ça va pas être violent. Ça va être sur la première partie de saison, et puis en deuxième partie, ce sera réglé. Moi, mon coup de cœur pour l'instant, l'équipe la plus intelligente dans son recrutement, et qui sera dans les quatre, et qui va venir mettre le bazar entre Marseille, Monaco et Lyon, c'est Saint-Etienne. Je trouve que Saint-Etienne a très très bien joué le coup, a gardé Mvila, a gardé Debuchy, est en train de se proposer une attaque. J'aimerais bien par exemple que Saint-Etienne ait le courage de tenter, là je sais que sur RFI ça va peut-être pas parler, mais ait le courage de tenter Samuel Eto'o. Et là vous avez une équipe complète. Et vous avez une équipe qui peut aller
frotter. Ça ferait comme du Buffon au PSG.
Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. La Ligue 1
attirer la lumière et des capitaux.
On a besoin de lumière. T'as besoin de faire venir des investisseurs. Il faut aussi tenter des coups. Je sais que le nom de Samuel Eto'o est passé à Nîmes, Metz. On en a parlé à Lens. Très bien. Mais s'il y a un club, Saint-Etienne a gardé Jean-Louis Gasset. Il est en train de faire une très bonne... ça va être une bonne petite équipe.
C'est pas la même chose de mettre un gardien de 40 ans et un attaquant de 37 ou 38. En plus, Samuel Eto'o, moi, j'ai commenté toute la saison écoulée sur les chaînes de Canal+, International, Canal+, Afrique, dans le championnat turc. C'était franchement un fantôme. Alors il a marqué quelques buts. D'abord avec Antalya qui a fini par descendre. Bon, il était parti en cours de route. Non, ça a pas été une réussite. Moi, franchement, si Saint-Etienne veut s'en sortir,
je vois pas
une solution de ce côté-là pour les Verts.
Qui
mais moi, je crois que Rennes a une vraie belle carte à jouer parce qu'ils sont en Coupe d'Europe cette saison. Ils ont réussi une deuxième partie de championnat remarquable la saison dernière avec
Sabri
Lamouchi, ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire comme coach. Et là, vraiment, ils ont pris Grenier pour remplacer Johan Gourcuff. Ils ont une vraie cohérence. C'est un club formateur qui a un vrai centre de formation prolifique. Et puis, ils ont un actionnaire, on n'en parle pas beaucoup, on parlait d'investisseurs, c'est la famille Pinot, en l'occurrence.
Ouais, mais c'est jamais très clair ce qu'ils veulent.
Voilà,
c'est
mais ça, je pense que s'ils obtiennent enfin des résultats, peut-être qu'ils auront envie de mettre un peu plus d'argent dans le club.
Alejandro, pour terminer.
Pour terminer, je dirais que tant que le mercato n'est pas achevé, on a du mal quand même à y voir très clair, parce qu'il se peut qu'il y ait encore des mouvements importants et des équipes qui perdent. Mais parmi toutes les équipes, en dehors du trio qui a animé la lutte pour le podium derrière le PSG la saison dernière, je mettrai une petite pièce peut-être sur Lille, qui avait connu une saison bien compliquée, mais qui, avec Galtier, essaye de rebâtir quand même quelque chose de plus compétitif, mais ça sera compliqué.
Juste pour expliquer aux gens, je pense que les clubs français, là, le mercato est nul. Enfin, il s'est rien passé pour aucun club français. Il n'y a pas eu de bonnes affaires. Là, en fait, c'est à partir de maintenant que ça commence, vu que le mercato anglais est terminé, vu que les Anglais ont 40 à 45 joueurs, ça va être la période des soldes, parce qu'en fait les clubs anglais ne peuvent plus acheter mais peuvent vendre. Et il y a le championnat, le mercato italien
aussi. Ouais,
et
prêté aussi. Il termine la semaine prochaine.
Et je vous rappelle que par exemple Lyon a fait une super affaire avec Depay à Manchester United. Hop, ça tu fais les soldes et tu te fais un super joueur.
Donc, exactement.
Ça va être là.
Alors en Angleterre, ça commence aussi. Il y aura dès aujourd'hui José Mourinho. Il revient Rémi avec ses Red Devils, Manchester United contre les Foxes de Leicester City et plein d'autres matchs. On en parlera beaucoup plus. Beaucoup plus que maintenant.
Ce sera pas très difficile.
Allez, un petit crochet par le Cameroun, Rémi, je pense que ça va vous intéresser. La prochaine CAN, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on s'appelle la CAN 2019, c'est ça Rémi, donc elle aura lieu en 2019. Par contre, on ne sait pas encore très bien ni où, ni quand, parce qu'on ne connaît pas les dates. C'est un peu... fumeux encore, on va dire. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que les Lions indomptables ont désormais un entraîneur, un sélectionneur, deux même. Au milieu de la nuit, en effet, Clarence Seedorf, le Hollandais, a signé son contrat. Il a pour adjoint Patrick Kluivert. Écoutons Patrick Kluivert que Bruno a croisé souvent. C'était le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il est au micro de notre correspondant qui a attendu toute la nuit, Joël Radem, que ça se signe. Écoutons-le, il parle très bien français.
Nous sommes très contents d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très, très important. Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. Pour ça, merci à tous et j'espère qu'on va voir sur le terrain. Merci beaucoup.
Alors Rémi, ces deux joueurs, Seedorf et Kluivert, ont été des très grands joueurs. Ils ont des palmarès assez incroyables. Par contre, en tant qu'entraîneur, c'est assez mince pour ce qui est de Seedorf. Pourquoi ont-ils été choisis, eux ? Il paraît qu'ils étaient surpris même d'avoir été choisis finalement.
Ils ont été choisis parce que nous sommes dans le régime de la médiocratie. Et je n'ai jamais vu ça. Le Cameroun a quand même lancé, comme exactement toujours la dernière fois, ils avaient lancé un recrutement d'un entraîneur sur Facebook. C'est comme ça qu'ils avaient pris une certaine fois un entraîneur comme ça.
Et mais la dernière fois avec Hugo Broz que personne ne connaissait, les Belges ne se sont pas trop trompés.
Ah oui, mais sauf
ils ont gagné la CAN.
Sauf que le Cameroun n'est pas allé à la Coupe du Monde. Donc après cela, nous avons eu des entraîneurs qui sont venus déposer des dossiers. Il y avait les Jerez, il y avait les Mataous et tout et tout. Donc il y avait une préliste, une shortlist de 77 entraîneurs qui ont été ce qui est quand même terrible, c'est que par la suite, ils font une sélection, on se retrouve avec Jerez, et après ils disent que Eriksson, ils se mettent à... Donc, ce sont des gens dont on a étudié les dossiers.
Kluivert. Mais alors, pourquoi
Kluivert il n'avait même pas déposé de candidature. Donc, moi, je ne comprends pas cette méthode clandestine et buissonnière avec laquelle le gouvernement camerounais vient toujours s'immiscer à travers des petits réseaux de filouterie et de banditisme en outrance derrière. Donc, aujourd'hui, on me dit, les Seedorf sont arrivés. D'ailleurs, regardez la façon cavalière par laquelle on a annoncé leur recrutement. Le ministre convoque une conférence de presse. Il annonce que voilà, vous avez déjà tel ou tel sélectionneur. Et c'est en pleine nuit, c'est-à-dire que c'était hier, en pleine
nuit. Cette nuit, vers 3h du matin.
En pleine nuit, c'est là qu'ils se mettent à négocier après qu'on ait annoncé qu'on avait des sélectionneurs. Donc, c'est pour ça que moi je dis, nous sommes dans un royaume ténébreux et c'est pour ça que le football camerounais ne fait que sombrer. Et même sur le plan de la logistique, sur le plan du palmarès, qu'est-ce qu'on va me donner de Seedorf? C'est-à-dire que
il a plutôt joué les pompiers pour l'instant.
Voilà, il a été à Milan en janvier,
à la Corogne,
viré après 4 mois, il est parti en Chine, viré après 5 mois, il est allé au Brésil, viré après un mois.
Mais c'est un peu surprenant, non?
Ah, c'est totalement étonnant parce qu'effectivement
surtout pour une équipe qui est championne en titre et qui va défendre son titre à domicile.
Absolument, mais on sait que c'est un vrai casse-tête pour les dirigeants camerounais de trouver un successeur à Hugo Broz. Déjà, ils ont commencé par dire, on renouvellera pas son contrat alors qu'il est quand même champion d'Afrique en titre. Oui. Alors effectivement, le jeu pratiqué par le Cameroun n'était pas vraiment flamboyant, mais ils avaient quand même gagné eux aussi cette Coupe d'Afrique des Nations.
C'est toujours le dilemme. Hein.
Absolument. Derrière, l'objectif des dirigeants camerounais, c'est de reconquérir certains joueurs expatriés qui veulent plus venir. Donc l'idée, c'est on va faire une grande équipe avec tous ceux qui sont à l'étranger, voir ceux qu'on pourrait convaincre de venir, les binationaux. Alors pour ça, prendre un duo Kluivert-Zeedorf, qui sont des gens de haute réputation internationale, c'est pas idiot. La seule chose, c'est que le temps qu'ils ont devant eux est quand même assez mince. Il y a moins d'un an pour construire une équipe, entre guillemets, plus prestigieuse, convaincre des joueurs de revenir en sélection camerounaise alors qu'ils en ont claqué la porte. Ça me paraît hasardeux, mais bon.
On verra ça dès début septembre parce que il y aura le premier match éliminatoire le premier week-end de septembre. Alejandro?
Moi non plus, j'ai pas envie de taper sur Zeedorf parce que c'est un joueur
ça,
que j'ai admiré
à l'entraîneur.
Après, on disait tout à l'heure, l'Argentine a été pitoyable à la Coupe du Monde. On a vu pendant des années comment la médiocrité des dirigeants, comment la mauvaise gestion peut plomber une équipe qui a dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde. Donc on peut imaginer les dégâts que ça peut produire dans une équipe comme le Cameroun, qui est en face des constructions permanentes et qui évidemment a subi les conséquences. Donc je pense que c'est catastrophique, mais c'est à l'image de ce qu'on voit bien souvent sous ces latitudes.
Bruno.
Dans le binôme, j'en connais un, c'est Patrick Kluivert. Il va falloir qu'il a quand même beaucoup de travail. Et même si c'est un garçon extrêmement sympathique qui mettra une belle ambiance, c'est pas un bourreau de travail.
Hein. Il est adjoint pour l'instant.
Oui, non, mais un adjoint, c'est bien souvent, ça bosse sévère.
Plus.
Et je peux vous dire qu'au Paris Saint-Germain, ils ont adoré. Hein. Il paraît qu'il était très sympa. Très, très sympa. Mais alors, par contre, l'heure, c'est l'heure. Hein. Il y avait plein de choses à faire, autre que le Paris Saint-Germain.
Ils ont signé, ils ont repris l'avion et ils sont déjà en Europe, sans doute, pour continuer leurs vacances. Bon, on verra et on suivra ça, évidemment, à la loupe, puisqu'il y aura ces matchs le week-end de septembre.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Nos cartons, les premiers de l'année, eh bien, on va essayer de s'en tenir au sujet Coupe du Monde. On a un carton vert, nous, un auditeur très fidèle de Radio Foot rencontré. Vous allez l'entendre devant le stade Loujniki.
Je suis venu malheureusement que je n'ai pas de ticket, je suis venu par le Fanadi ou quoi, c'est quelqu'un qui m'a offert, mais j'ai pas de ticket, mais juste quand je suis derrière le stade, au moins que je suis heureux, c'est juste pour la finale que je suis venu. Je suis un fidèle auditeur de Radio Foot International depuis Guinée-Conakry, je me nomme Kamara Kierno Ibrahim. Franchement, je suis très content de vous avoir retrouvé ici à Moscou. J'aime trop RFI, trop même, tout le monde.
Voilà.
Tout le monde.
Il nous connaît tous, hein, il nous écoute. Merci beaucoup, cher auditeur, et bonjour à Conakry. Bruno, un carton ?
Alors, carton vert pour l'organisation de cette Coupe du Monde. On s'attendait à plein de choses. On s'attendait, alors je sais pas comment a fait Poutine. Si, j'ai ma petite idée, mais c'est pas grave. Les images qui sont les images qui sont ressorties de ça, on pouvait s'attendre à des choses violentes avec, je rappelle, les supporters russes avaient fait des dégâts en 2016 en France. Tout a été bien. Pour avoir des amis qui sont allés là-bas pour aller voir des matchs, m'ont dit que c'était super. Les images étaient belles. Il y avait du monde dans les stades. Voilà, carton vert là-dessus. Bravo aux Russes. Ils ont réussi leur coup.
Moi, je vais mettre un carton vert à la FIFA pour avoir adopté et bien géré l'assistance vidéo à l'arbitrage. Vous savez que j'ai fait un livre sur ce sujet. On fait la Coupe du Monde avec la vidéo aux éditions Solar.
D'ailleurs, on en parlera parce que ça commence ce week-end aussi.
Et voilà. Et donc, dans la foulée, on va avoir l'assistance vidéo en France cette saison, mais pas en Ligue des Champions. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens ont été très critiques avant la Coupe du Monde sur l'assistance vidéo. On n'est pas prêt, ça va être une catastrophe, ça va pas marcher. On s'est rendu compte qu'à l'arrivée, il y a eu un ou deux matchs où effectivement il y a eu quelques décisions qui auraient pu être autres, mais sinon globalement le bilan est extrêmement positif.
Ça demande à être amélioré quand même, Rémi.
Carton rouge adressé par Edmond Guézé de ma page Facebook Le Mingon officiel à Florentino Pérez qui nous a donné.
Mais Rémi, on a dit Coupe du Monde. Il est pas à la Coupe du Monde. Je sais ce que vous allez dire.
Alors, parce qu'il nous a dit, vous allez voir après Cristiano Ronaldo, vous aurez une équipe formidable et tout. On attend là, finalement, le gars, il commence déjà à nous apporter des gardiens de but et tout. Et on dit maintenant que c'est les jeunes du centre de formation qui vont compléter l'équipe.
Rémi.
Bon, voilà, il y a un proverbe africain qui dit que quand l'épervier commence déjà à manger des mouches, il devient la risée des poules.
Alejandro.
Une Coupe du Monde, ça sert à découvrir des joueurs et des équipes. Et moi, je vais vous surprendre, je ne vais pas parler de la France ni de l'Amérique du Sud, etc. Takashi Inui et les Japons, c'est une équipe qui m'a enchanté. Et voilà, j'ai adoré découvrir ça.
Merci beaucoup, on termine au galop. Merci à Pierre Guérin, Richard Rifono qui était à la réalisation aujourd'hui. Vous avez les rendez-vous de Mondial Sport durant le week-end à 21h30 samedi et dimanche en temps universel, bien sûr. À lundi.